Donc oui, je vais vous présenter des recherches collectives qu'on mène sur Mayotte depuis 2012. Donc on va avoir un aperçu de ces secousses un peu successives. Alors, comme c'est un contexte qui est pas forcément, dont tout le monde n'est pas forcément familier, je vais passer un peu de temps sur, à la fois sur le contexte et puis sur les méthodes d'enquête. Puisque le format le permet, je suis assez contente de pouvoir faire ça. Donc, pardon pour ceux qui sont déjà familiers, hein, vous pouvez attendre un peu. Donc, quelques mots même géographiquement, hein, pour que vous soyez bien repérés. Mayotte se situe entre le continent africain et Madagascar, plus précisément donc, dans l'archipel des Comores, qui est projeté ici. Et il est constitué de deux îles, une toute petite qu'on voit pas bien, et habitée par à peu près 300 000 personnes, pour faire simple, sur 376 km². Et depuis 2011, Mayotte est le 101e département français. Elle est devenue aussi région ultra-périphérique de l'Europe, dans l'océan Indien, en 2012. Et donc, son histoire, sa géographie, ont produit un contexte économique et social assez singulier, que j'aimerais retracer un petit peu en profondeur avant d'en venir à des éléments de terrain plus problématisés. Elle a été achetée par la France en 1841 et elle a été une des premières îles de l'archipel à être colonisée. Et puis les trois autres, donc Anjouan, Grande Comore, Mohélie, ont été des protectorats un peu plus tard. Et en 1912, l'archipel dans son entier devient une colonie française à part entière, annexée à Madagascar, dont elle va constituer une espèce de province à la fois négligée et sans budget propre, donc une sorte d'annexe de colonie, vous voyez. Et la France, dès le traité de cession de 1841, et aussi dans les traités de protectorat, s'était engagée à préserver les coutumes autochtones, et notamment l'islam, hein, et la place du droit local, elle reste encore en débat jusqu'à aujourd'hui, et pas mal étudiée, notamment par mes collègues Myriam Hachimi-Alaoui et Élise Lemercier, avec qui je travaille énormément sur cette enquête. Je fais un saut dans le temps. On arrive aux années 1960-70, qui sont, vous savez, marquées par les indépendances. Et deux référendums, l'un en 1974 et l'autre en 1976, vont entériner le choix du rattachement de Mayotte à la République française, tandis que les trois autres îles, Grande Comore, Anjouan et Mohélie, deviennent indépendantes. Et donc un statut de collectivité territoriale va être attribué à l'île qui va durer 25 ans. Et ces 25 années d'hésitation vont vraiment marquer la vie politique mahoraise, hein, parce que pendant toutes ces années, une inquiétude très forte se fera entendre, notamment donc des pro-Mayotte françaises qui brandissent régulièrement, depuis les années 1980, la menace comorienne qui pèserait donc du fait de cette incertitude statutaire. Alors, selon les mots de l'ethnologue Sophie Blanchy, Mayotte a voulu rester française à tout prix, et ce, donc, sous différents statuts juridiques, depuis la partition politique de l'archipel, elle est donc devenue département tout récemment. Alors, un des pièges méthodologiques le plus évident, ce serait de reproduire celui du nationalisme méthodologique, en reproduisant savamment cette partition politique, en traitant Mayotte comme un isolat dans l'archipel des Comores et dans la région plus largement dans laquelle elle s'inscrit, puisque, évidemment, la situation de Mayotte est très singulière du fait de son histoire sociopolitique, mais elle s'inscrit aussi dans les dynamiques sociales de tout l'océan Indien occidental. Et vous le voyez, l'île de la Réunion est située à peu près 1400 km de Mamoudzou, donc, qui est le chef-lieu de Mayotte, alors que beaucoup de personnes ont à l'esprit qu'ils sont l'un à côté de l'autre dans l'océan Indien, puisqu'il s'agit de deux départements français. Hein, d'ailleurs, il y a un indépendantiste comorien installé à Mayotte qu'on avait rencontré et qui m'avait dit un jour, en forme de plaisanterie, finalement, une manière de résoudre les problèmes de Mayotte, ce serait de l'attacher avec une corde et puis de la ramener à côté de l'île de la Réunion, ce qui, évidemment, est un peu difficile à faire. Et donc là, je vous renvoie aux travaux, bien sûr, de Sophie Blanchy, mais aussi à ceux de Mama Idriss ou de Juliette Sacconi. Donc, La situation de Mayotte dans l'archipel des Comores n'invite pas tant à penser en dehors du cadre national, comme Dick Schiller invite à le faire, par exemple, en défendant une perspective transnationale sur l'immigration, mais ça invite plutôt à penser le cadre national postcolonial, et ce, évidemment, afin de reproduire la cécité des chercheurs vis-à-vis de le même type de cécité qui avait pu exister vis-à-vis de la situation coloniale. Alors, du point de vue des méthodes de recherche et de la problématisation, je prends un petit peu de temps, puisque donc j'insiste quand même, je présente aujourd'hui des recherches collectives depuis 2012, sous des formats un petit peu différents, trois programmes de recherche successifs. Il est difficile de citer l'ensemble vraiment de tous les chercheurs qui, à un moment donné ou un autre, ont participé, émargé à ces différents projets. Deux donc, que je co-dirige avec Élise Lemercier à l'Université de Rouen. Et puis, quand même, il y a une équipe qui s'est constituée. Et c'est aussi ce qui a rendu possible cette enquête sur un terrain aussi loin que la ville entre la ville de Rouen et Mayotte. C'est le passage de relais qui a pu se faire au sein de l'équipe avec des séjours sur le terrain très réguliers depuis 2012. Y compris pendant en fait les décasages et après, ce qui nous a permis aussi de retracer des parcours et de suivre les personnes. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une forme de synthèse, de communication qui ont pu être faites aussi avec les collègues, en particulier toujours avec Myriam Hachini-Alaoui et Élise Lemercier, mais aussi avec Valélia Mounitoke ou François Fénu. Je tiens à votre disposition une bibliographie de l'ensemble de ces éléments. Alors, pour préciser le plan qui va être le mien, je ne sais pas si tu tiens la montre au cas où je déborderais. En principe, j'ai prévu une intervention accordéon qui peut être coupée. Alors, je voudrais commencer par aborder la départementalisation dans son ensemble, les changements considérables qui sont intervenus dans l'ensemble de la vie sociale. Donc, on restera à un niveau à la fois général, mais qui me paraît très important pour comprendre et aborder les décasages comme événements spécifiques et vous expliquer aussi de quoi il s'agit en deux mots. Ce phénomène par lequel des habitants, des voisins, ont expulsé des personnes classées comme comoriennes de leur maison. Mais je reviendrai en détail, bien sûr, sur la morphologie et le déroulement de ce phénomène. Et on abordera ensuite ce qui se joue, justement, après les décasages, à la fois sur la scène politique locale et dans les parcours des personnes qui ont pu être décasées. Donc, je vais me remettre sur la carte. Pour commencer, donc, le premier point sur la départementalisation de Mayotte, les changements que celle-ci a apportés, pour vous donner des éléments de contextualisation qui sont à la fois juridiques, sociaux, politiques, culturels, économiques aussi. Donc ça m'a demandé beaucoup de temps d'essayer de vous livrer cette synthèse, mais qui est nécessairement incomplète, mais qui me semble faire un peu, encore une fois, contexte qu'il est important de comprendre. Pour comprendre la dynamique des relations interethniques qui se jouent. Première chose, pour rentrer dans la singularité de cette situation postcoloniale, il faut préciser que Mayotte reste soumise au principe de spécificité législative, qui fait que les lois françaises n'y sont applicables que par dérogation. Donc vous avez six domaines qui sont actuellement complètement hors du plein droit, la fiscalité, les droits sociaux, le droit du travail, le droit foncier et les conditions d'entrée et de séjour. Au moment où on manifestait pour défendre le droit du travail, les Mahorais manifestaient pour qu'il s'applique. Il y avait quelques... Il faut souligner combien Mayotte, mais avec d'autres territoires d'outre-mer, est héritière du régime d'exception, du régime juridique d'exception de la colonisation. C'est vrai aussi pour la protection sociale qui ouvre des droits moins avantageux qu'en métropole et dans les autres départements. Les politiques sociales, elles sont très récentes et sans commune mesure avec l'ampleur des risques sociaux qui sont censés prendre en charge. À titre d'exemple, le montant alloué au social par le département était 11 fois inférieur aux dépenses des départements métropolitains, alors que les inégalités sociales y sont particulièrement saillantes. Et on est dans un horizon d'une égalité future dont la date semble sans cesse et même indéfiniment repoussée. C'est ce qui a nourri les mobilisations sociales qui se sont succédées à Mayotte dans la mouvance des mouvements contre la vie chère, j'y reviendrai. Il faut voir aussi que dès avant la départementalisation, des évolutions très importantes sont intervenues dans le sens d'une bureaucratisation des rapports entre l'État et les populations, en particulier dans le domaine de l'état civil, du statut personnel ou du droit foncier. Donc il faut se représenter une situation où la vie des personnes a été très largement bouleversée, à commencer par cette fameuse révision de l'état civil qui a visé donc à procéder à l'identification nationale des Mahorais, à commencer par le système de nomination, qui était jusqu'ici un système islamique, par un système nom-prénom, qui, je vous le rappelle, est quand même issu d'une longue sédimentation dans l'histoire des sociétés occidentales. Et jusqu'à aujourd'hui, les Mahorais voient leur identité assez profondément transformée. Par ailleurs, ils peuvent conserver leur statut personnel, sachant que ce fameux droit local applicable à Mayotte, qui ne s'appelle plus désormais droit musulman, se rapproche en fait de plus en plus du droit commun. Il a été très largement transformé. Et puis, une régularisation foncière qui est censée, elle aussi, mettre un terme au droit coutumier en matière de propriété. Alors que dans les faits, on assiste, qu'il s'agisse du statut personnel ou du droit foncier, à une situation de pluralisme juridique qui est précisément celle sur laquelle on travaille actuellement. Et donc ces actions de l'État français ont soutenu une logique de singularisation très importante de Mayotte vis-à-vis des Comores, dans une île où, au plan politique, la départementalisation a été revendiquée de très longue date par le mouvement populaire mahorais. Je vous invite à lire le très bel ouvrage de Mama Idriss qui vient de sortir là chez Cartala sur ce mouvement populaire mahorais et sur les circonstances par lesquelles Mayotte restait rattachée à la France. Et donc, on l'aura compris, la départementalisation, ce n'est pas juste une évolution institutionnelle. À juste titre, d'autres chercheurs sur d'autres départements, comme Justin Daniel, la caractérisent comme un phénomène total qui affecte profondément l'organisation sociale, économique et politique du territoire. Il y a à la fois un mouvement de légitimation à l'ensemble national qui se joue, mais c'est aussi toute une transformation du registre de légitimation des élus locaux, puisque leur légitimité va être désormais fondée sur la capacité qu'ils ont ou non à attirer les biens publics issus de la solidarité nationale. Je renvoie là aussi aux travaux de Stéphanie Guyon dans le cadre du Saint-Laurent du Maroni en Guyane, où vraiment les politiques mises en œuvre par la municipalité vont participer assez directement de la régulation entre les rapports entre les groupes sociaux de race, en l'occurrence en Guyane, les créoles, les noirs-marrons, les amérindiens, dans un contexte où l'accès aux ressources publiques est parfaitement déterminant. L'emploi public local, l'offre de logement, les financements pour les villages. Et dans le cas de Mayotte, par exemple, on a étudié avec Violaine Girard et Nali Kondro les transformations des politiques de logement social, et on a pu montrer que se réarticulent des modalités de contrôle des populations, à la fois dans le face-à-face et dans le contrôle à distance. Et tout l'enjeu, ça va être d'identifier ceux qui sont légitimes à recevoir, bénéficier de cette solidarité nationale. Et dans le traitement de ces demandes, par exemple, l'État évite de traiter de front les questions qui sont liées à la polygamie, qui, bien qu'interdite, en fait, perdure dans les faits, et aux unions mixtes entre les Mahorais et les résidentes sans titre de séjour. Et ce sont alors les agents, les agentes intermédiaires mahoraises, qui, dans cette situation où en réalité les demandeurs sont mixtes, hein, à la fois dans des situations de polygamie et ou en couple avec des résidentes sans titre de séjour. Et donc ce sont ces intermédiaires mahoraises qui vont se retrouver à faire le tri. Hein, sachant qu'on est dans une situation où les mahoraises sont suspectées de vouloir avoir la nationalité française dans une logique un peu instrumentale, plutôt que d'être français. Tandis que les Comoriennes et les Comoriens sont considérés comme bénéficiant indûment de droits sociaux qui sont de fait réservés aux seuls détenteurs de la nationalité française. Et c'est la même logique que Élise de Mercier a pu repérer pour l'attribution du RSA. C'est-à-dire qu'il y a une logique de vérification des identités, de sélection des publics qui est assez directement en continuité avec le souci qu'avaient les administrateurs coloniaux de lutter contre l'usurpation de la qualité de citoyen français. C'est Emmanuel Sada qui a mis cela au jour, et on retrouve hein, dans les différents domaines de l'action publique cette question. Avant-dernier élément de ce contexte, ça, je ne vous apprends rien, hein, c'est l'intense politisation de l'immigration sur l'île. C'est-à-dire que, mais je tenais à le rappeler, l'identification nationale des Mahorais importée par l'État est concomitante de cette intense politisation de l'immigration, qui provient du continent africain, si je vous remontre l'autre carte, notamment en passant par Dar es Salaam, et aussi et surtout qui provient des autres îles comoriennes vers Mayotte. Hein. D'ailleurs, les autres îles, c'est une désignation, une catégorie de la pratique, hein, c'est ceux des autres îles. Et donc, le durcissement progressif hein, du contrôle des frontières de la France et de l'Europe a pris à Mayotte un tour singulier. Il faut bien le lire à la fois dans la dynamique locale et une dynamique plus générale de durcissement des Françaises, des frontières. Pardon. En 1993, déjà, une grève générale a lieu à Mayotte, à la fois contre le coût de la vie et pour l'augmentation du salaire minimal. Et les leaders politiques ont, dès cette époque, répondu en pointant du doigt la question migratoire et des manifestations sont organisées pour réclamer la mise en place d'un visa. En novembre 1994, Édouard Balladur vient en visite à Mayotte pour faire deux annonces. Un, l'organisation d'un référendum avant la fin du siècle sur les institutions à Mayotte. Et deux, l'instauration d'un visa obligatoire pour les Comoriens et les Comoriennes. Et donc ce visa, ce fameux visa Balladur, est instauré en 1995 et les conditions vont se durcir progressivement. Alors Aurélie Barbet dit que le lagon de Mayotte est une des frontières les plus poreuses de France. Elle écrit ça en 2009, c'est toujours vrai. Ajoutons qu'elle est aussi l'une des plus mortelles, puisque par ses politiques dérogatoire au droit commun, Mayotte fait partie des terres d'exception en Outre-mer pour les personnes étrangères. Hein, on a un certain nombre de travaux et de rapports qui le montrent, au prix de plusieurs centaines de morts en mer chaque année. Et quand même, pour donner un seul chiffre de ce point de vue-là, en 2012, par exemple, deux territoires ultramarins, la Guyane et Mayotte, totalisent la moitié des éloignements de l'ensemble du territoire français. Et donc, on peut affirmer que depuis la fin de la liberté de circulation au sein de l'archipel, Mayotte est devenue une frontière avancée de l'Europe au sein de l'océan Indien. Et donc, on se retrouve dans un territoire où à peu près un tiers de la population serait en situation irrégulière, en particulier celle en provenance des ex-colonies voisines. Et c'est évidemment au cœur de nos recherches depuis qu'on a commencé à travailler sur Mayotte, puisque ça surdétermine, ça la question migratoire est omniprésente, quel que soit le domaine de la vie sociale auquel on peut s'intéresser. Quelques chiffres là encore, d'après le recensement général, les étrangers représentent à peu près 40% de la population de l'île en 2012, un petit peu plus au dernier, et 95% de ces étrangers sont de nationalité comorienne. Donc c'est vraiment un héritage direct hein, de l'enchevêtrement entre colonisation, croissance démographique de l'île et pratiques migratoires. Que cette frontière n'a pas empêché, elle en a transformé le sens et les modalités. Mayotte, c'est aussi le département le plus jeune de France. Hein, la moitié des habitants de l'île ont moins de 17 ans. Et tous les indicateurs socio-économiques brossent le portrait d'une situation très, très défavorisée. Comment ?
La moitié à moins de 17 ans.
Oui. Ce qui est quand même une situation démographique, elle vient de partir, Marie, mais qui est tout à fait exceptionnelle au regard de la dynamique démographique des autres départements français. Donc c'est à la fois le seul département à majorité musulmane et le seul département où la majorité des gens ont moins de 17 ans. Une pyramide des âges, tout à fait, avec un niveau de vie qui est 6 fois moindre qu'en métropole. Alors, l'enquête l'enquête emploi de l'INSEE est très éclairante. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous en donne juste quelques éléments. Parce qu'elle est très éclairante pour comprendre la situation postcoloniale. La moitié des emplois sont dans l'administration. Et Mayotte, par ailleurs, enregistre le taux de chômage le plus élevé de France. Et le halo de chômage est considérable. C'est-à-dire, si on additionne le chômage au sens du BIT et le halo de chômage, on a un tiers des Mahorais qui souhaitent travailler mais qui n'ont pas d'emploi. Et on le retrouve au plan qualitatif, hein, c'est ces fameuses bricoles que les gens font. Et si on rentre encore dans le détail, parmi tous ces actifs qui souhaiteraient travailler, 60% sont des femmes et 60% sont de nationalité étrangère. Et la moitié d'entre elles sont âgées de moins de 30 ans. Donc on a quand même une structuration là qui est tout à fait importante. Un indicateur aussi qui est bien sûr très général, mais qui donne l'idée de la situation sociale et sanitaire, c'est celui de la mortalité infantile, qui est quand même 4 fois supérieur à celui de la métropole. Donc ces éléments de contexte étant posés, je voudrais quand même insister sur le fait que penser la situation postcoloniale n'implique pas de la postuler ni comme une évidence ou de la poser comme un système d'inégalité et de domination qui serait figé. Mais là, je pense que je m'adresse à une assemblée qui est convaincue, enfin qui partage cette idée. Et vraiment, il s'agit plutôt de considérer les formes selon lesquelles les conflits nés de la situation coloniale, continue de travailler la société française contemporaine, y compris pour des territoires qui sont restés sous tutelle française, sous des nouveaux statuts, et ce, dans un contexte où les décolonisations ont eu lieu dans le monde. C'est pour ça qu'il est aussi intéressant de se pencher sur cette situation, parce qu'elle présente ces deux caractéristiques qui permettent de poser un regard sur la littérature, sur le postcolonial, un éclairage qui est assez intéressant. Et donc, penser les métamorphoses de cet ordre social post-décolonial, ça c'est vraiment l'horizon général de la réflexion collective hein, que je vous présente ici. Et ça ne préjuge évidemment rien d'une continuité directe avec le passé, ou pas plus d'ailleurs que les catégories de l'altérité contemporaine qu'on va voir ne sont là aussi en héritage direct. Donc voilà, on va travailler sur la construction contemporaine hein, d'ordre sociaux locaux en l'inscrivant dans une réflexion plus générale sur les outre-mer français. Alors on en parlait déjà, il y a un certain nombre de travaux hein, qui se sont développés récemment dans cette perspective. Ils sont pluridisciplinaires, il y a des politistes, il y a des ethnologues, il y a des sociologues qui de plus en plus ont posé leur recherche de terrain spécifique dans cette grande question. Et ils ont en particulier mis au cœur de leur questionnement le devenir des populations qui étaient anciennement colonisées, qui sont désormais reconnues comme des citoyens et des citoyennes nationaux. Hein, il y a eu un certain nombre de dossiers thématiques, je vous épargne la liste, hein, mais l'ethnologie française, de pouvoir, de genèse, le nôtre, terrain et travaux, qui ont vraiment posé cette question donc des populations anciennement colonisées, de leur devenir, et c'est bien sûr particulièrement d'actualité aussi en Nouvelle-Calédonie. Sachant que Mayotte n'est pas comme la Nouvelle-Calédonie, inscrite sur la liste des territoires à décoloniser de l'ONU, mais qu'un certain nombre de dispositions ont rappelé l'illégalité du référendum qui avait été organisé en 1974, puisqu'il ne respectait pas l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. La perspective que je voudrais développer ici entend, elle aussi, interroger la situation des populations anciennement colonisées autochtones, ceux et celles qui se définissent comme les gens du cru, mais sous un angle particulier, celui des relations qu'elles ils entretiennent avec les gens d'ailleurs. Gens d'ailleurs, soit classés comme étant originaires de pays anciennement colonisés. Alors bien sûr, les Comoriens et les Comoriennes à Mayotte, mais on peut prendre aussi l'exemple des Congolais et des Congolaises à Johannesburg, hein, sur lesquels aussi j'ai travaillé, gens d'ailleurs sont aussi les gens qui sont issus des anciennes métropoles coloniales. Dans le cas de Mayotte, ceux qui sont désignés par le terme courant de Mzungu, soit les Français originaires de France dite métropolitaine, ou parfois aussi incluant les Réunionnais qui viennent aussi travailler dans l'administration à Mayotte, puisqu'il y a, c'est au moins aussi racial que de classe, évidemment, comme souvent ce type de classement. Donc le choix de restituer les décasages de 2016, ça ne saurait quand même résumer toutes ces relations dans toute leur complexité, mais c'est une séquence qui, je crois, est particulièrement éclairante pour comprendre la dynamique des relations ethniques, sans la réduire, on y tient beaucoup, à un contentieux historique entre Mahorais et Comoriens des autres îles. Parce que c'est très souvent comme ça que c'est lu, dans le sens commun, voilà. et même par les protagonistes eux-mêmes. Je crois qu'il est très important de ne jamais perdre de vue qu'il y a évidemment un tiers majoritaire dans cette affaire. Et la situation que j'ai pris tout ce temps de décrire, qu'il ne faut pas, enfin, qu'il faut garder à l'esprit pour comprendre le contentieux. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire le tract qu'on a reproduit sur ce PowerPoint, qui dit « Mayotte asphyxiée, collectif des citoyens de la commune de Boigny ». Une manifestation et action d'expulsion pacifique contre l'immigration clandestine, quitter nos maisons et nos terres, suivie d'un grand voulet, ce qui veut dire un grand barbecue, donc une fête quoi, sur la plage. Conséquences, vols, agressions, meurtres au quotidien, climat de picots installés, images de notre île souillée, économie meurtrie, système de santé débordé, services publics à l'agonie, écoles surchargées, éducation des enfants en danger, échec scolaire, délinquance juvénile et chômage de masse, stop. Et donc, appelant les villageois au dimanche 15 mai à se donner rendez-vous à 6h du matin pour faire le tour de la commune et un appel à l'aide de l'ensemble des Mahorais et autres personnes qui aiment Mayotte. Donc ça résume assez bien la morphologie de ce phénomène, c'est-à-dire qu'au début de l'année 2016, les habitants de certains villages de l'île ont organisé donc des expulsions qu'ils qualifient de pacifiques contre ce qu'ils désignent comme étant l'immigration clandestine. Donc ces opérations, appelées décasage, consistent à procéder collectivement à des expulsions de leur domicile des voisins qui sont donc désignés comme comoriennes et comoriens. Alors, restituer ce qui s'est passé lors des décasages de 2016 n'a rien de simple. Parce que les faits, le cadre légal qu'il faudrait appliquer, les actions qu'il convient de mener font l'objet elles-mêmes de lectures très différentes selon les protagonistes. Et donc, il y a aussi un souci là que j'essaye de synthétiser, de vous restituer les divergences de cadrage du problème qui se pose et des solutions qu'il convient d'apporter. Donc, pour faire simple, j'ai adopté un plan selon un fil chronologique, en découpant les décasages selon des séquences communément identifiées. Donc là, je me bornerai à vous en donner quelques éléments, hein, parce que je ne vais pas pouvoir tout déplier, c'est ça l'accordéon. Première éléments, les opérations de décasage et les campements informels qui s'en sont ensuivis. La seconde séquence, le regroupement d'une partie des personnes décasées sur la place de la République à Mamoudzou, à côté du marché couvert municipal, donc pendant plusieurs semaines. Et dernière séquence, leur hébergement dans un gîte touristique qui s'appelle le Bengali, qui est situé au centre de l'île, et la gestion des sorties de ce site. Alors si ce choix a mérite quand même de la simplicité, il ne faudrait pas oublier que l'établissement même de la chronologie des casages, elle a fait l'objet de beaucoup de discussions entre nous, parce qu'on a beaucoup discuté de savoir s'il s'agissait d'événements exceptionnels ou au contraire de pratiques tout à fait récurrentes qui s'inscrivent dans un continuum historique. Et là, en partant des parcours, on a vraiment des réponses assez fermes à cette question. Vous me permettrez de garder un peu le suspense pour l'instant. Et de la même façon, les mots pour le dire, est-ce qu'on parle de décasage, est-ce qu'on parle de délogement, d'expulsion ou de bannissement? Les expressions pour désigner les auteurs, les délogeurs, les expulseurs, leurs cibles, est-ce que ce sont des clandestins, des expulsés, des décasés, des Anjouanais, des Comoriens, ou tout simplement des délogés? Les mots, vous le savez, sont porteurs de sens et de lectures divergentes. Alors, on ne va pas inventer un vocabulaire distinct, mais on a quand même essayé de délimiter et d'expliciter nos choix. Je voudrais m'arrêter sur l'un d'entre eux qui me paraît important. On a réservé le terme d'expulsion aux procédures d'expulsion du territoire de Mayotte par les forces de l'ordre, y compris quand elles ne respectent pas nécessairement le cadre légal, y compris lorsqu'elles suivent une législation exceptionnelle par rapport à celle qui s'applique sur le reste du territoire français. Je ne sais plus si, oui, j'avais cette diapositive. Un des éléments de cette exception, c'est bien sûr, ça vous le savez sans doute, parce que c'est quand même paru souvent dans la presse ou dans les rapports, le traitement des enfants et la pratique qui consiste à rattacher n'importe quel enfant à n'importe quel adulte pour pouvoir l'expulser, par exemple. Donc, on a choisi de réserver le terme d'expulsion à ces pratiques et le terme de décasage aux expulsions des personnes de leur lieu d'habitation par leurs voisins. D'accord ? En dépit ou à l'aide des propriétaires. Donc, les propriétaires, c'est les gens auprès de qui ces personnes payent un loyer. La plupart du temps, il n'y a pas de bail formel. Mais, contrairement à ce qui a pu être dit, c'était très souvent des gens qui habitaient dans des cases CIM, c'est-à-dire des logements en accession sociale à la propriété, construits par la société immobilière de Mayotte, et non pas seulement des logements autoconstruits, donc des bangas, sans titre de propriété ou sur des terrains non constructibles. En réalité, il y a vraiment dans les situations des décasés l'ensemble des statuts résidentiels possibles sur le territoire, y compris des gens qui habitaient dans des cases CIM avec un bail formel et des propriétaires régulièrement payés. C'est une distinction sémantique qui va permettre de discuter et préciser plus avant les rapports qu'entretiennent les expulsions du territoire français de Mayotte et les décasages par les voisins des lieux de résidence. On l'aura compris, les actions de l'État et celles des habitants. Alors, pour étudier les décasages et leur gestion publique, Élise Lemercier, Myriam Hachimi et moi-même avons tenté de mettre en regard des parcours de personnes décasées avec la gestion publique de l'urgence sociale que ces décasages ont malgré tout créée. Alors, on a réussi, non sans difficulté, que je vous épargne, à retracer le parcours de 5 femmes et de 5 hommes, dont 4 jeunes décasés, avec leur famille. Et notre enquête auprès des décasés a par exemple bénéficié de l'appui de l'une de nos enquêtées, qu'on a nommée Shaima, qui a d'ailleurs pendant un temps tenté de faire vivre une petite association autour de la mémoire des événements, et puis des liens qui s'étaient créés entre compagnes d'infortune. Alors, je ne sais pas. Si je peux, parce que je voudrais développer un petit peu pour vous donner un aperçu des rapports de place dans l'enquête et puis aussi présenter la trajectoire de Shaima, rentrer un petit peu dans des éléments plus ethnographiques par ce biais. Je vous mets les termes que je vais utiliser dans ma description. Donc, j'avais rencontré Shaima en 2016 par l'intermédiaire d'un militant de la CIMADE hein, qui était très engagé auprès des décasés et qui a continué de l'être tout au long de la crise et après. Et je retrouve Shaima en 2017 dans un village du nord de Mamoudzou, non sans peine d'ailleurs. Et donc en entretien, elle nous explique qu'elle est née en juin, qu'elle est arrivée à Mayotte à l'âge de 7 ans, dans une commune où domine le kibouchi, qui est une variante dialectale donc du malgache de Madagascar. Elle y a donc appris cette langue, qu'elle parle couramment, ainsi que le chimaoré et le chimzoni. Elle est prise en charge par un oncle par alliance, et cet oncle était rémunéré par sa tante, puisqu'il avait une carte de séjour de 10 ans, et il était rémunéré pour qu'il fasse les démarches pour les papiers, à la fois pour ses frères et sœurs. Mais cet oncle-là n'a pas voulu faire ses démarches pour elle, parce qu'elle était particulièrement brillante à l'école, et il lui a expliqué, nous dit-elle, qu'il lui aurait dit « tu vas devenir française et puis tu vas m'oublier, donc hors de question ». Elle est titulaire d'un CAP dans le domaine tertiaire, elle a assez peu d'expérience professionnelle. Quand elle se marie, elle emménage non loin de son village d'origine. Et après le décasage qu'elle a subi avec son mari et ses enfants, durant son séjour au gîte du Bengali, elle a consigné toutes ses observations dans un cahier qu'elle a tenu à nous confier. Donc, on a vraiment des éléments aussi, rassembler des documents tout à fait de l'intérieur dans ces cahiers. Et donc je la retrouve quelques jours plus tard. On décide de partir ensemble à la recherche de l'une de ses connaissances qui avait connu un décasage dans le sud de l'île et avec qui elle s'était retrouvée sur la place et dans le Bengali. Et donc on cherche donc cette, appelons-la Zaina, dans un premier village, sans succès. Et puis, c'est d'autant plus compliqué que notre démarche suscite énormément d'hostilité, de méfiance. C'est-à-dire que comme Shaima a grandi, elle a été scolarisée à Mayotte et qu'elle parle les trois langues majoritaires dominantes sur l'île, elle n'est pas immédiatement repérée comme une anjouanaise. Hein. Et le problème, c'est que nous cherchons une anjouanaise. Et au bout d'un moment, on ne peut pas faire autrement que dans la description préciser cet aspect-là, parce que sinon les gens ne voient pas du tout qui on cherche en fait. Et en plus, donc, elle est en compagnie d'une Bzungu qui pourrait être journaliste ou avocate ou membre de la CIMADE, ce qui nous rend quand même un peu suspect. Mais il y a eu plusieurs interactions comme ça qui se sont répétées. C'est-à-dire une première dame assez âgée à qui nous on s'adresse. Au début, elle est très aimable, très accueillante. Et alors, dès lors que le mot « anjouanaise » est prononcé, elle a tourné la tête avec une grimace de dégoût et elle a refusé de nous parler. On s'est égaré à côté de la mosquée, on a des ouvriers au service de la municipalité qui n'étaient pas loin. Alors, comme notre présence est un peu incongrue quand même, ils viennent nous voir gentiment en nous demandant qu'est-ce qu'on fait là et tout ça. Et donc au départ, Shaima explique en chimaoré que nous sommes à la recherche d'une amie. Et puis bon, voilà, comme on n'arrive toujours pas à la faire identifier, on finit par dire qu'on est à la recherche d'une amie qui est anjouanaise. Et là, il s'échauffe, il s'énerve, il revient aux Français. Et il nous demande de partir de manière très agressive, sans non plus avoir recours à de la violence physique. Mais c'était sans appel. Et on se rend à pied dans les Venelles et la même chose se reproduit. Et alors quand on revient à pied vers la voiture, il y a des affiches de campagne du candidat du Front National qui sont vraiment visibles de manière massive sur les façades des maisons. Et ça produit un effet comme ça de sentiment d'hostilité collective, manifeste, assumée, à laquelle on avait été très directement confrontés. Et de fait, dans cette commune, le Front National atteindra 65% au second tour. Donc un vrai succès électoral. Et ce qui est étrange aussi, c'est que Shaïma, qui a quand même vécu les décasages, qui a subi des insultes, qui a subi tout le mépris, la dureté des conditions de vie au gîte du Bengali, elle ne semblait pas avoir anticipé pour autant la virulence des réactions que nous avons essuyées, en fait, dans l'après-décasage, sur une situation plus ordinaire. Alors bon, je lui propose de renoncer, parce que quand même, on était un peu affectés, vous pouvez l'imaginer. Alors dans un autre village, l'accueil est moins défavorable, c'est-à-dire qu'une fois que les gens se sont enquis des raisons de notre présence, ils nous ont mis en contact avec une bonne anjouanaise qui travaillait dans l'une des maisons. Alors elle était très inquiète quand on a commencé à lui parler, et son soulagement vraiment a été visible quand Shaïma a engagé la conversation avec elle en Shinzwani, à mi-voix. Et immédiatement, voilà, la bonne enjoinesse s'est sentie en terrain familier et en confiance. Et donc, on a fini par retrouver Zaina, qui était parmi les vendeuses d'un petit marché informel au bord de la route. Et alors, au retour, on est passé devant le lycée de Sada, où Shaïma avait fait ses études. C'est un des lycées les plus réputés de l'île. Et voilà, elle avait une amertume, une nostalgie extrêmement forte quand elle évoque les devenirs de ses camarades de classe et le sien, puisque après les décasages, elle était déjà auparavant pas dans une situation sociale très florissante, mais elle s'était retrouvée dans une précarité très, très aggravée. Donc, ce que je vais voilà, essayer de vous donner à voir, c'est quelques éléments des parcours des décasés au regard du risque, des dangers qu'ils perçoivent, des possibilités, des ressources familiales qu'ils ont ou non, qu'est-ce qu'ils ont pu mobiliser. Et je vais mettre en regard donc, cette expérience avec la configuration singulière de l'action publique au travers desquelles les acteurs ont été amenés à prendre en charge l'urgence sociale créée par ces opérations. Alors, évidemment, ça va être délicat de développer la complexité et les contradictions des positionnements individuels et collectifs auxquels vraiment chacun et chacune a été confronté au sein de son organisation. Qu'il s'agisse de la préfecture, qu'il s'agisse des collectivités locales, des forces de l'ordre, des cadres, des bénévoles, des salariés de la Croix-Rouge, de la CIMAD, de Médecins du Monde, ou des organisations, enfin des associations locales comme l'ACFAV, les associations comoriennes aussi, les gestionnaires du gîte bengali, les médias. C'est-à-dire que chacun aussi s'est retrouvé à gérer des positionnements publics et professionnels et privés qui sont à la fois liés à la position qu'on occupe sur l'île. Est-ce qu'on y habite depuis toujours ou est-ce qu'on y est seulement de passage? Évidemment à voir avec les classements ethniques et raciaux dont chacun et chacune fait l'objet. Les positions qu'on occupe au sein des familles, surtout quand elles comptent parmi leurs membres des expulsés et des expulseurs, ce qui n'a rien d'exceptionnel. On va le voir. Et puis, il y a aussi la question du positionnement des rapports avec l'État central, avec certaines associations métropolitaines aussi qui ont pu intervenir dans le débat, comme le CRAN, ou des rapports qu'on peut entretenir avec le défenseur des droits. Donc, là, je vous en donnerai quelques éléments. Alors, comment ces décasages sont intervenus je vais revenir... Donc je vous l'avais dit, ça a commencé en début 2016. Pour les premiers qui ont eu lieu, c'était à chaque fois 200 à 300 personnes expulsées par week-end. Elles se sont au départ concentrées dans le sud et puis elles ont ensuite, en parallèle, se sont développées dans le nord et le centre de l'île. Et chaque nouvelle expulsion était annoncée par voie de haut-parleur, par affichage. Voilà, il y avait vraiment un battage très important. Et insistons quand même sur le fait que l'île a connu déjà des précédents. Déjà en 1990, non seulement il y avait eu des manifestations, mais aussi en 2003, il y a des habitations d'Anjouanais qui avaient été brûlées par des agents municipaux sur ordre du maire UMP. Alors cette affaire avait été particulièrement médiatisée, mais en fait, en retraçant les parcours, on retrouve beaucoup. Deux mots sur le, sur la politi- enfin, sur le plan idéologique, parce que cette politisation de l'immigration et cette vindicte populaire prend un tour un peu particulier à Mayotte, puisqu'elle est justifiée par deux doxas. La première, alliée vraiment au contexte de la partition politique, c'est que les Comoriens sont considérés comme étant un danger de submersion démographique, y compris par des protagonistes, par exemple des syndicalistes, qui d'ordinaire défendent d'autres positions et qui vont avoir une argumentation autour de l'exceptionnalité à la fois de la proportion d'étrangers et du risque qu'encourrait Mayotte, avec l'idée que cette présence viendrait remettre en cause la souveraineté française sur ce territoire au profit des Comores. Donc c'est quand même une singularité aussi locale par rapport à d'autres formes de politisation qu'on peut connaître. Alors contradictoirement, parce que les deux choses ne vont pas ensemble, c'est aussi l'idée que si on les laisse faire et si on les laisse devenir trop nombreux, les Comoriens prétendraient de façon systématique et collective, c'est-à-dire en se cooptant et se recrutant les uns les autres, au poste de la fonction publique française, au détriment des Mahorais. Sachant que les Mahorais étaient auparavant les plus mal classés dans l'ordre colonial. Et que cette vindicte, elle se fait aussi au nom d'une domination passée, toute récente, dont les gens ont encore le souvenir à vif. Il y a vraiment un souvenir très, très proche. On peut le voir aussi, dans la hiérarchie entre les îles est très nette quand on regarde les logiques de scolarisation, d'accès à la scolarisation, sans même parler de l'accès à des parcours dans l'enseignement supérieur. Et clairement, les élites coloniales n'étaient pas à Mayotte, et donc il faut aussi garder à l'esprit que la situation a énormément évolué par cette départementalisation. Et donc, vous voyez, ces deux doxas, ces deux fantasmes, d'un côté la subversion démographique et on va retourner dans le giron des Comores, et de l'autre, ils vont nous prendre nos places dans l'administration. Ce qui suppose de rester français. Donc les deux doxas sont contradictoires, mais ça n'a pas de... Et vraiment, ces gens dont on parle sont de ce fait, surtout les femmes et les jeunes, qui sont désignés dans le débat public comme responsables du péril démographique et des difficultés aussi de développement de Mayotte. Troisième élément de cette doxa, c'est la délinquance, les vols, les agressions dont les Comoriens sont rendus responsables. Là, on retrouve des choses tout à fait classiques, même si, en y regardant plus près, c'est absolument pas démontré par les faits. Alors comment ça a démarré? C'est intéressant de quand même de revenir là-dessus. Il y a eu, en 2016 en tout cas, des dispositifs de démocratie participative qui ont voulu s'emparer de ces questions de délinquance et de violence dans l'île. Et ils ont pris une espèce de tournure singulière. On a un des décasés qui nous a raconté cela, parce qu'il était... c'est un profil assez particulier. C'est un jeune étudiant. Il est arrivé enfant d'Anjouan en 2002. Il a grandi à Mayotte. Et au départ, il participait à ces réunions de démocratie locale en tant qu'acteur très impliqué, notamment dans le soutien scolaire des jeunes, etc. Et voilà, il y avait des activités assez ordinaires de citoyens ordinaires. Et puis il raconte l'évolution des débats, je vous le cite, il dit « Quand le mouvement se créait, au début, c'était pour créer une sorte de comité de veillance pour que les gens vivent mieux et bien et les voleurs les donner aux autorités. Et après, ils ont dit non, c'est le jour où ils m'ont pointé du doigt, il y en a qui font des études, qui nous piquent notre place, il y en a qui réussissent à intégrer l'administration publique. » Et ce jour-là, il a même dû sortir du cénacle du fait de l'hostilité croissante à son égard, et quelques semaines plus tard, un ami lui téléphone en lui expliquant donc que la situation a changé. Et cet ami lui dit, là, on va amener un mouvement, je ne sais pas comment l'appeler, ça sera tous les Comoriens, on va les virer. Hein, et il y a eu vraiment un phénomène où, c'est, bien sûr, cette idéologie, elle est là depuis très longtemps, il y avait ces manifestations, enfin, on est sur, depuis 30 ans dans cette vindicte, mais à un moment donné, où ça s'est cristallisé dans le Sud, autour de ce dispositif de démocratie participative et de collectifs qui se sont formés et qui ont, sont allés ensuite encourager d'autres villages, en leur proposant une aide physique, l'aide matérielle et une aide physique. Ce qui est, moi, ça m'avait particulièrement frappé, puisque j'avais pu observer, c'est pas forcément d'ailleurs spécifique à Mayotte, puisque j'avais pu observer comment parfois la démocratie locale peut donner un souffle inédit à l'ethnicisation des problèmes et des solutions à mettre en œuvre. Et donc, dans chaque village, les contours des personnes à décaser a fait l'objet de négociations, hein, d'établissement de listes nominatives qui pouvaient d'ailleurs être évolutives. Et puis, il y avait ces fameuses affiches, mais les propriétaires ont aussi reçu des courriers individuels les invitant à ne pas renouveler leur location. Et même d'ailleurs certains ont anticipé hein, ces opérations et sont partis avant. Alors c'est pas un phénomène donc nouveau en 2016, mais il a pris une ampleur inédite à la fois par le nombre de personnes et de villages concernés et puis par le caractère organisé, planifié et annoncé publiquement de ces opérations. Et on va le voir, c'est important pour la séquence de 2018 parce que voilà, on ne peut pas dire que c'est un crescendo, aussi, c'est pas aussi simple que ça, mais il y a quelque chose de cet ordre. Et d'ailleurs, dans son expérience, hein, Zaina décrit les expulsions comme une tâche collective et coordonnée, normalisée. Hein. Elle nous dit qu'ils ont commencé le travail à expulser les gens. Les enquêtés ont fait beaucoup de comparaisons ordinaires avec différentes expulsions qu'ils avaient pu subir ou que de proches de leur famille avaient pu subir, notamment une assez importante en 2000. Et tous disent que les opérations de 2016, elles sont bien plus dures par leur ampleur et par cette coordination collective. Et en particulier, ils ont empêché les gens de se réinstaller, d'aller chez sa sœur, chez sa cousine, chez son frère, dans d'autres villages. Et donc, au fur et à mesure, les gens se sont retrouvés progressivement sans solution de repli. Et c'est ce qui a aussi expliqué l'ampleur de la crise et sa visibilité, puisque au bout d'un moment, plus personne n'avait de solution. Et c'est bien cela qui a conduit les personnes à venir s'installer à Mamoudzou. En complément de ces affiches, donc je vous le disais, ces fameux courriers sont intéressants à étudier. Il y a toute une grammaire juridique à l'appui de délégitimation des droits les plus élémentaires qui est quand même assez intéressante et qu'on a déjà présenté avec Élise Lemercier là, en juin. Mais il y a vraiment un gisement d'analyse à faire. Parce que vous voyez, on est sur un courrier qui respecte les codes du courrier administratif, demande de faire partir les clandestins de vos maisons et vos terrains, sont utilisés des termes juridiques, aide au séjour des étrangers en situation irrégulière, des acteurs de la justice sont nommés, le procureur de la République, le TGI, la gendarmerie, et puis... Et ce tract s'inspire assez directement de la législation en vigueur, puisqu'il a recours aux articles du code du CESEDA qui régit l'entrée et le séjour. Et ce, faut-il le rappeler, donc à l'appui d'opérations menées par des voisins qui consistent à faire sortir des centaines de personnes de leur logement, enfants et bébés compris, à détruire les habitations, à spolier les biens, et les empêcher de revenir s'installer ou de s'installer dans un village. Et donc c'est ce recours à la légitimité d'une grammaire juridique est particulièrement intéressant. C'est vraiment une piste de travail collectif sur le rapport aussi au droit commun. Hein. Puisque l'histoire de Mayotte a façonné un rapport assez singulier au droit commun, je vous l'ai dit, hein, il y a une exception juridique, et puis les Mahorais... On fait depuis longtemps l'expérience intime hein, et politique du rapport de force avec l'État sur l'application ou non du droit commun à Mayotte, qui est vraiment assez léonine, si je peux dire. C'est-à-dire la reconnaissance du vote île par île au moment de l'indépendance des Comores. Voilà, on est déjà sur une situation où le droit qui s'applique est celui du plus fort. L'application retardée de l'interdiction de la polygamie, les fameuses zones de pas géométriques, les droits sociaux, j'ai déjà cité le droit du travail, tout ça, ce sont des choses où, de toute façon, le droit commun est négociable, il est compliqué, il n'est pas évident et il ne s'impose pas de manière aussi légitime. Et il est, en particulier pour le droit d'entrée et de séjour, négociable à travers les mouvements sociaux et les élus. Hein, puisque déjà en 1995, le visa Balladur, c'était le résultat de ces mobilisations. Et donc, le droit d'entrée et de séjour des étrangers apparaît, aux yeux des décaseurs, mais aussi des décasés, comme négociable à la fois dans sa lettre et dans sa mise en œuvre. Et en plus, il y a cette mobilisation de cette source de légitimité, simplement en le déplaçant, en le poussant jusqu'à son paroxysme, puisque là, on en vient à remettre en cause la légitimité même de toute personne d'origine comorienne à être là, à être porteuse de droit, quel que soit son statut juridique. C'est-à-dire que ça, j'insiste aussi, enfin, nous insistons beaucoup sur ce point, les personnes n'ont été aucunement protégées par leur statut juridique, y compris le statut de Français. Donc l'objectif proclamé, c'est lutte contre l'immigration clandestine, mais ça fabrique le portrait de Comoriens, de Comoriennes, d'Anjouanais, d'Anjouanaises en clandestin, y compris ceux qui sont en situation régulière, y compris des Français originaires des autres îles. Et même, ça a aussi, dans certains cas, produit une forme de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que plusieurs personnes qu'on a pu rencontrer étaient tout près d'accéder à la légalité du séjour, ou avaient des enfants qui, pour certains, étaient devenus français, d'autres non, pas encore. Et la vindicte populaire combinée à la gestion locale de la crise a fait que des personnes ont été fragilisées au point de redevenir tous sans papier, sans exception. D'autant que, vous le savez peut-être, le bureau des étrangers est toujours fermé par quelques manifestants qui empêchent sa réouverture, donc la régularisation n'est pas possible. Alors, qui sont les personnes décasées? Elles ont donc tout en commun, vous l'aurez compris, d'être étiquetées comme anjouanaises et ou comoriennes, mais en fait, elles ont des relations très hétérogènes avec ces autres îles et des situations juridiques très hétérogènes. Dans les fratries, hein, je l'ai dit, certains sont reconnus comme français, d'autres pas. Et en tout cas, la quasi-totalité des personnes que nous avons rencontrées ont émigré pour rejoindre une personne de leur famille. Et en effectuant pour cela, parfois depuis l'enfance, des traversiers de ce bras de mer de 70 km qui sépare Anjouan de Mayotte. Et donc les traversées sont réitérées, parfois dans des conditions traumatisantes, et l'épreuve de la clandestinité en fait se renouvelle à chaque fois. Je ne sais pas si j'ai le temps de retracer un de ces parcours de manière approfondie. Je sais pas, on a jusqu'à... Je pense que c'est important pour celui-ci, puis ensuite j'irai plus vite. Parce que ce récit fait vraiment apparaître ce que produit les décasages sur les parcours économiques, résidentiels, familiaux et scolaires des personnes enquêtées. Donc je vais vous raconter le cas de Zaina, donc qui est née à Anjouan et qui est arrivée à Mayotte très jeune, en 1982. Elle a été expulsée à 5 reprises du territoire de Mayotte, dont 2 fois à la suite de décasage de ses voisins. Alors dans l'entretien, elle dit « et je suis restée là », c'est-à-dire c'est une expression assez récurrente, c'est-à-dire à la fois... elle se tient debout, elle se tient ferme, mais elle ne progresse pas aussi, elle piétine un peu dans son parcours, et puis c'est aussi le sens de « je suis restée habiter là ». Et donc, au départ, elle arrive chez une dame, dont elle va élever les enfants, contre la promesse qui lui est faite d'être ensuite scolarisée, ce qui n'adviendra pas. Ensuite, elle rencontre le père de ses enfants dans les années 1990. Elle conclut un mariage religieux. Et à chaque expulsion, elle reconstitue des lieux de vie, des modes de survie. Alors qu'elle est enceinte en 2000, elle doit faire face à un premier décasage. Et à la suite de cela, elle est arrêtée par la police. Elle est conduite au centre de rétention administrative. Et ensuite, elle est expulsée vers en juin pendant environ 3 mois. Et alors, elle raconte les circonstances de son retour à Mayotte. C'est un agent du centre hospitalier de Mayotte, donc l'hôpital, hein, qui l'assomme de revenir en urgence parce qu'elle attend des jumeaux et donc elle devrait continuer à être suivie au CHM. Vous avez ce genre de contradiction, c'est assez typique. Et donc elle raconte, je suis partie en pirogue, mais la préfecture m'a encore renvoyée là-bas. J'ai fait 3 voyages avant de revenir, réussir à rentrer ici. Donc elle revient dans l'île avec sa fille en bas âge. Et elle dit qu'elle vit dans la campagne, c'est-à-dire se cache en fait. Hein, et d'ailleurs toute l'île en fait est recouverte de différents points d'habitation plus ou moins clandestins. Et plus ou moins proches des villages. Alors, après son accouchement, il y a une tentative de médiation avec sa propriétaire pour qu'elle puisse avoir une castime, et puis finalement échoue. Et donc, elle continue de vivre dans la clandestinité. En 2003, elle donne naissance à son troisième enfant, et puis son compagnon rompt avec elle. Elle est de nouveau expulsée vers Anjouan avec ses enfants. Elle revient 6 mois plus tard. Vers 2005, elle parvient à inscrire ses enfants à l'école. Et alors qu'elles grandissent, elle n'y arrive plus. Et donc, elle va s'installer chez son frère en 2008. En 2009, après 27 années passées à Mayotte, alors que ses jumeaux sont en CM2, bientôt en 6e, hein, qui reste encore une étape extrêmement importante à Mayotte, elle connaît à nouveau une expulsion légale de toute sa famille. Alors elle le lie au contexte politique de l'époque, de l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République française. Elle dit ça littéralement. Quand Sarkozy a été élu, là, on m'a encore expulsé à 2h du matin, à d'agonie avec les enfants. Et la famille est détenue à la gendarmerie pendant 2 jours, ensuite au CRA. Et à ce moment-là, elle va essayer de négocier que ses enfants restent à Mayotte avec le concours des enfants. C'est-à-dire que les enfants eux-mêmes, qui parlent bien français, ce qui n'est pas du tout le cas de Zaina, demandent à rencontrer une assistante sociale et essayent de demander à rester sur le territoire. Nous, on ne veut pas aller en jouant parce qu'on est né ici, on va à l'école ici, vous pouvez emmener maman. Et l'assistante sociale les écoute, elle essaye de plaider leur cause, mais la décision administrative est irrévocable, ils doivent partir. Donc, salarié du centre de rétention leur aurait dit « Si votre mère part, vous partez aussi, on ne va pas vous laisser ici. Vous allez avec votre mère en Anjouan. » Sachant que c'est un énorme enjeu et que les Anjouanaises, c'est partie des griefs qui leur sont adressés, elles sont rendues responsables des mineurs isolés qui se retrouvent en masse sur l'île suite à leur expulsion et quand les enfants peuvent rester. Donc il passe 3 mois en juin, elle effectue encore une première tentative de retour. Alors il trouve une embarcation, il trouve l'argent pour la payer. Le jour du départ, ils apprennent qu'un bateau a chaviré dans la matinée et que tous les passagers sont morts. Et donc les 3 enfants ne veulent plus embarquer. Et elle décide d'entreprendre une deuxième tentative le même jour quand même. Et elle raconte ça. Si Dieu veut qu'on meure dans l'océan, on va mourir, sinon on ira là-bas avoir une vie meilleure. Ses enfants parviennent à retourner à l'école, parce que ce n'est pas toujours le cas. Hein. On a vraiment cet enjeu de la scolarisation des enfants qui est un leitmotiv dans tous les entretiens. Et puis au bout de 6 mois, elle reçoit une convocation de la préfecture. Et là, les choses s'arrangent. Elle revient dans une maison, elle peut payer un loyer, elle fait des ménages, des gardes d'enfants. Elle n'est plus obligée de se cacher. En 2016, ce qu'elle décrit quand elle compare avec l'expérience de 2000, puisque c'est une des personnes qui s'est fait décaser en 2016, c'est que là, ça a été une espèce de table rase dans tous ses ancrages et ses modalités de survie qu'elle avait enfin, au bout de 30 ans, réussi à bricoler et à organiser. Euh, beaucoup de, d'ailleurs de décasés ne croyaient pas du tout à leur expulsion. En fait, ils ont été très surpris avec cette idée que bah, les clandestins, c'est toujours les autres. Alors, je vais. Non, ils ne croyaient pas à leur décasage. Ouais, c'est ça. Jusqu'au moment où il est advenu, ce qui est assez classique. Alors, je passe désormais. Oui. Alors là, je vous ai livré un récit d'une des personnes qui était dans les situations les plus difficiles. Il y a des récits bien plus politisés, mais voilà, ce sera pour une autre fois. Je ne peux pas vous en faire part. Et j'insiste, hein, les gens se sont retrouvés place de la République. Parce que, à la fois, ils ne pouvaient pas aller s'installer ailleurs, hein, et donc, à un moment donné, ils ont affrété des bus, les associations comoriennes ont affrété des bus pour prendre en charge les gens qui s'étaient retrouvés dans des campements informels, et les ont acheminés ben, un petit peu vers le seul endroit qui paraissait praticable. Ce n'est pas du tout un hasard, puisque ben, la place de la République à Mamoudzou, c'est probablement un des rares espaces publics urbains de l'île. Et vous le voyez sur cette photo, donc ils sont contre le marché qui vient d'être rénové, et il n'y avait que dans la journée, en tout cas, que les femmes et les très jeunes enfants, hein, les hommes étant n'étant pas sur place, avec une situation sanitaire tout à fait spectaculaire. Là, ce ne sont que des gens qui sont en situation régulière, puisque entre ce moment de l'expulsion et ce moment où ils se retrouvent regroupés sur la place de la République, les gendarmes qui avaient eu une attitude passive pendant les décasages, avec l'idée qu'il ne fallait pas qu'ils ajoutent du trouble à l'ordre public sur un trouble à l'ordre public, ont ensuite pris le relais des décaseurs en triant les personnes expulsées, et donc en expulsant du territoire les personnes qui avaient été décasées par leurs voisins. Donc ça, je passe aussi assez vite. Cette action des forces de l'ordre, quand même, résumons-la, on peut la décrire selon trois logiques observables. Le laisser-faire, l'empêchement des agressions physiques directes, hein, c'était un peu la ligne rouge à ne pas franchir, et l'anticipation, le relais ou l'accompagnement de l'action des collectifs d'expulseurs par le contrôle des identités et l'expulsion du territoire. Et c'est une position d'intervention minimale qui a été définie assez tôt. Hein. Les représentants locaux de l'État français ont assez rapidement considéré qu'il s'agissait d'un problème qui relevait des relations entre Mahorais et Comoriens, dans lequel l'intervention de l'État devait être minimale, sauf s'il y a du sang ou que les maires participent aux manifestations, je cite. Ça contraste évidemment avec des positions publiques qui ont été faites au niveau par les ministres des Outre-mer et de l'Intérieur, qui se sont exprimés, par des communiqués de presse qui condamnaient ces violences, et par le président de la République lui-même, qui considère qu'il s'agit là d'une situation très préoccupante. Mais en parallèle de ces déclarations publiques officielles de l'État central, et puis de l'État local sur différentes scènes publiques, dans le même temps où nous étions sur le terrain et que ces opérations de décasage avaient lieu en mai 2016, il y a eu une opération légale, celle-ci, de destruction d'un bidonville sur les hauteurs de Tsunzu, qui est juste au sud de Mamoudzou. Et ça a vraiment contribué à définir en acte la position des représentants locaux de l'État. Puisque dans cette opération, donc légale, une centaine de personnes ont été délogées. Et ça a pu être perçu localement comme une façon à la fois de légitimer les décasages. Regardez, l'État lui aussi procède à. Et une façon de rappeler le monopole de la violence physique de l'État néanmoins, en disant « c'est à nous de faire ça et vous êtes trop impatients, mais nous allons le faire, regardez d'ailleurs, nous le faisons ». Vous voyez ? Alors, je vais passer sur ce qui s'est passé au Bengali, peut-être que j'y reviendrai, c'est-à-dire le moment où ils ont dû, il y a eu un référé liberté qui était en passe d'aboutir, donc ils ont trouvé une solution in extremis, ils ont envoyé tout le monde dans un gîte touristique, le Bengali, dans une situation sanitaire absolument dantesque, et tous les témoignages sur ce point sont assez... impressionnant, puisque voilà, il y a eu vraiment des difficultés sanitaires tout à fait considérables, associées aussi à l'éloignement géographique. Ils se sont trouvés vraiment au milieu de. Donc des problèmes de nourriture, des problèmes d'eau et des problèmes de brimades, d'insultes, plus d'éloignement de toutes les ressources. Hein, donc ça a contribué vraiment cette période du Bengali pour celles et ceux qui l'ont vécu, qui étaient souvent aussi celles et ceux qui avaient le moins de ressources pour trouver une solution alternative à cet hébergement. Ils se sont trouvés dans une situation d'enfermement assez dégradant. Et il s'agissait vraiment, là, on est dans une logique qui est celle que décrit Michel Agier, c'est-à-dire de gérer les indésirables en s'en débarrassant, donc en les cachant de la vue de cet espace public, tout en les maintenant en vie néanmoins, mais en vie tout à fait minimum. Et on était vraiment sur le modèle d'une intervention humanitaire, minimaliste. Et la situation des 142 personnes, parce qu'ils étaient à peu près 300 à rentrer, ensuite c'était 142 qui s'est enlisé jusqu'à fin août 2016. Moi, j'ai assisté aux sorties des trois dernières familles, hein, dont celle dont je vous ai retracé le parcours en tout premier, qui est la dernière personne à être sortie du Bengali. Et, donc, ce qui marque, hein, je le dirai en un seul mot, les parcours sociaux de l'après-Bengali, c'est cette difficulté à retrouver tous les ancrages qu'ils avaient patiemment et difficilement construits. C'est-à-dire que c'est ça que ce sur quoi je veux insister en conclusion. Hein, les décasages de 2016 ont bouleversé simultanément les ancrages économiques, les ancrages résidentiels, familiaux, scolaires. Et alors c'est pas seulement, c'est en partie des événements qui sont singuliers, exceptionnels, mais on voit bien en reconstituant les parcours que les personnes en fait ont vécu différentes expulsions de leur domicile, du territoire, ils sont revenus au péril de leur vie, recommencer, reconstruire des nouvelles installations. Et se retrouver à chaque fois finalement redégringoler une pente que les gens avaient pu mettre 30 ans à gravir. Alors, pour interpréter ce phénomène, on peut mobiliser une distinction analytique que fait l'historien Emmanuel Blanchard pour distinguer ce qui relève historiquement du déplacement forcé des populations, des expulsions administratives individuelles et nominatives, assurées dans le cadre de l'état de droit. Et vous voyez que là, la situation, elle est quelque part entre les deux, c'est-à-dire qu'on n'a pas un caractère collectif, systématique et massif des expulsions du territoire, comme on a pu le voir à la fin du XIXe siècle dans le contexte européen. Mais si on considère ces deux mécanismes comme les deux pôles d'un continuum, on voit bien que la situation de Mayotte elle est assez complexe à plus d'un titre, puisque l'action des citoyens elle a été à la fois contrariée et relayée par les pouvoirs publics. Puisque donc, dans chaque village, donc les contours des personnes à décaser ont fait l'objet de négociations collectives, et que à la fois les expulseurs se réclament du cadre légal encadrant l'entrée et le séjour, et en même temps ils ne le respectent absolument pas. Les forces de l'ordre ont à la fois adopté une attitude passive, mais ils ont empêché les agressions physiques directes. Ils ont relayé, donc je l'ai déjà dit. Et donc c'est une situation qui globalement a activé la frontière, comme le dit Andrea Aria. Sauf que là, le contrôle des frontières est poussé à son paroxysme jusqu'à enlever le moindre droit élémentaire aux personnes expulsées. C'est-à-dire que voilà, on est quand même dans une conjonction d'un contexte local et national, d'une législation en vigueur, d'usages sociaux, qui a rendu possible, concevable, souhaitable de déloger ses voisins de longue date, des salariés, des camarades de classe, des amis du foot, des co-religionnaires, des épouses aussi, des nièces, des neveux, de façon tout à fait directe. Pour autant, les Mahorais ne remettent pas en cause le monopole de la violence légitime de l'État, et bien au contraire. De leur point de vue, ils s'en emparent pour obliger en quelque sorte l'État à durcir encore davantage les conditions d'entrée et de séjour dans ce petit morceau de territoire national. Et en 2018, on est arrivé sur le terrain avec Élise Lemercier après 7 semaines de grève et de barrage. Et cette fois-ci, les mobilisations qui jusqu'ici étaient des revendications d'égalité et contre la vie chère, pour le dire vite, étaient des mobilisations au nom de la lutte contre l'insécurité. Et en 2016, la séquence mobilisation sociale et la séquence décasage étaient distinctes. Et en 2018, elles avaient fusionné. Vous voyez, pour devenir le principal et le premier mot d'ordre des revendications, des mobilisations collectives. Hein. Donc d'un côté, des mobilisations syndicales contre la vie chère, pour l'égalité réelle, et de l'autre, des séquences de décasage qui, à un moment donné, ont fini par fusionner sur le plan politique. Sachant qu'on n'a pas fini d'explorer ce qui s'est passé à l'occasion de ces barrages, mais on a quand même une de nos interlocutrices qui nous a expliqué que l'idéal, ce serait de pouvoir maintenir ces barrages, de suspendre les lois de la République pendant un temps, le temps de nettoyer tout ça. Alors, néanmoins, est-ce que la situation est entièrement spécifique à Mayotte ? Bien sûr, la situation est singulière. Mais le territoire de Mayotte, vous l'aurez compris, ne fait pas exception quant au fait que les politiques migratoires restrictives ne sont pas effectives au regard de leur objectif affiché de renvoyer les étrangers en situation irrégulière. Là, on a clairement juste des durées qui s'allongent entre le moment de l'expulsion et le moment du retour. Et à Mayotte, comme ailleurs, les expulsions et les menaces d'expulsion sont les deux facettes d'un même gouvernement, sauf qu'elles sont très activement relayées, voire réclamées par les Mahorais. L'interprétation que je voudrais vous proposer de cela, c'est que finalement, ces décasages engendrent de façon dynamique, toute une catégorie de la population désignée comme comorienne, une forme de vulnérabilité sociale régulièrement renouvelée. Et précisément, cette vulnérabilité des conditions matérielles d'existence, c'est un marqueur très important d'appartenance aux classes populaires en Afrique, avec la faiblesse des revenus et de la scolarisation. Et donc, tout ça, c'est comme s'il s'agissait moins d'expulser les Comoriens du territoire que de les maintenir collectivement en situation subalterne et de façon tout à fait assumée au regard donc d'un passé largement mythifié où les Mahorais étaient eux-mêmes en situation dominée. Et pour beaucoup de Mahorais, c'est aussi l'idée selon laquelle c'est une condition pour eux-mêmes accéder à l'égalité au sein de l'ensemble français, égalité qui semble elle-même sans cesse repoussée dans un futur proche, mais qui ne semble jamais pouvoir advenir. Et puis, ces pratiques de marginalisation sociale qui se renouvellent, elles sont, j'ai pas beaucoup développé, mais je tiens quand même à insister sur le fait qu'elles s'accompagnent de discours de la différence radicale très, très important, très virulent. Par exemple, en comparant les franco-comoriens, ceux qui ont la double nationalité, à une larve qui va pondre des œufs. Et très régulièrement aussi, on a entendu des discours s'inquiétant de ce que on ne peut pas reconnaître les Comoriens parmi les Mahorais. Et ce qui les rendrait tout particulièrement dangereux, puisque voilà, cette idée de ce qu'ils produiraient, enfin, ce qu'ils nourriraient, ils sont invisibles, ils sont parmi nous, et ils nourrissent collectivement des projets néfastes. Et vous avez donc de l'autre, et donc ça c'est aussi jusque dans les couloirs des ministères, et puis c'est cette figure de la femme anjouanaise, qui serait l'opératrice concrète hein, du désir de revanche historique qui est prêté aux Comoriens et aux Comoriennes. Et donc c'est sa sexualité, sa fécondité qui sont désignées comme un danger contemporain pour Mayotte française. Ce qui là encore est relayé dans tous les débats qu'on a pu entendre autour de la maternité de Mamoudzou. Hein, donc on a eu des rhétoriques tout à fait congruentes. Et on le voit bien dans cette fabrique, donc, en pratique et en discours, d'une barrière infranchissable, d'une altérité radicale, les politiques migratoires jouent un rôle tout à fait majeur. Ben, je vous remercie, je m'arrête là. Merci.